Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h. Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Excellent ramadan à toutes et à tous. Cette année encore, je vous emmène faire le tour du monde à la découverte du rituel du ftour. Enfin, aujourd'hui, ce sera plutôt iftar, vous allez comprendre. Et on va découvrir les traditions culinaires du ramadan tout autour de la planète pendant tout ce mois. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'une des cuisines les plus riches et les plus variées du monde arabe, hein, des pays du Levant, comme on dit. Et donc, il fallait un invité à la hauteur de la tâche pour en parler avec talent et passion. Donc, on reçoit aujourd'hui Alan Jeham. Bonjour Alan.
Bonjour Manu.
Alors Alan, je vais rappeler, même si beaucoup d'auditeurs vous connaissent déjà, je vais rappeler un petit peu qui vous êtes. Hein. Vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en France, hein, en 99-2000, hein, c'est
exactement,
ça?
Exactement, il y a 22 ans presque.
Ouais. Et pourtant déjà chef et tout. Alors vous ne saviez pas faire la cuisine, vous parliez pas français, vous aviez 200 francs en poche, si ma mémoire est bonne.
Hein. Exactement, avec un grand rêve d'être un chef à
voilà.
Paris.
Et aujourd'hui, 4 restaurants, une étoile Michelin. Un chef que tout le monde s'arrache.
Malgré tout, je suis heureux.
Mais oui, non, mais c'est ça le plus important. Et donc, vous avez une bonne étoile, mais bon, vous êtes quelqu'un de sympa aussi. Donc c'est vrai que
c'est
du coup, je pense que ça doit forcer aussi. Ça force le respect, mais ça force la chance aussi et la bonne étoile. Alors, aujourd'hui, oui, donc vous avez commencé par un restaurant de cuisine française dans le Marais qui s'appelle l'Auberge Nicolas Flamel, qui est la plus vieille maison de Paris d'ailleurs, si je ne m'abuse.
Exactement.
Hein, et puis vous avez ensuite créé plusieurs restaurants. Hein, vous avez eu Agé. À l'époque, par modestie, vous n'osiez pas encore vous appeler Alan Jeham, donc
exactement.
C'était Agé. Il n'y avait que vos initiales. Il y a eu Agé Léal, Agé Saint-Germain.
Exactement.
Et puis, vous avez ouvert un premier Alan Jeham dans le 16e arrondissement.
2017.
Ouais, en 2017.
Et puis là, l'appeler Alan Jeham.
Voilà, enfin.
18 ans après.
Enfin. Et là, une étoile Michelin, pratiquement tout de suite. Hein, c'est ce qui est rare, hein, généralement le Michelin, mais un an, voire deux ans sur les restaurants qu'il mérite avant de donner une étoile. Alors là, dans votre restaurant qui s'appelle donc Alan Jeham, vous faites de la cuisine française gastronomique, mais alors voilà, on sent vos influences libanaises dans vos plats. On retrouve de la mélasse de grenade, de l'anis étoilé, des épices du Liban, du zaatar, effectivement. Donc comme quoi, effectivement, on peut tout en conservant ses racines faire de la très grande cuisine qui est saluée par la critique gastronomique, hein, parce que bon, on parle du Michelin, mais enfin, je crois que toute la presse gastronomique, oui, a parlé de vous, hein. Retour aux racines. Vous avez ouvert ensuite le restaurant Casti. Alors Casti, ça veut dire
Castati. Mon histoire.
Pardon, je ne prononce pas très bien. Donc mon histoire, c'est un peu une manière de retourner à vos racines.
C'est exactement ça. En fait, c'était la déclic après l'étoile en 2017. Comme on n'est pas beaucoup nombreux, je suis le seul chef d'origine libanaise qui est étoilé, et même pas dans les pays Proche-Orient ou dans le pays de Golfe. C'est vrai, il y a un déclic, et là, je me suis senti que tellement c'est les gens que ça a rendu fiers à cette étoile, surtout les jeunes cuisiniers. J'ai dit, retour aux sources, retour aux racines, et j'ai ouvert ces restaurants-là le 16 février 2020, 3 semaines avant 4 semaines avant la fermeture de la première vague de,
ouais,
Covid. J'ai pas eu de chance, mais par contre.
Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu le temps de venir dîner avant que ça referme.
Exactement. C'est vrai, c'est un restaurant que je travaillais pendant 2 ans sur le projet, parce que vraiment c'était une décision qui était très très dure à le prendre, d'ouvrir un restaurant libanais, à recommencer à faire mes preuves dans la cuisine de mes racines, que j'ai eu l'étoile en 2017, et j'ai pas, comme c'est un retour un peu en arrière, mais c'était un bon challenge. J'ai réussi à mélanger la tradition avec la modernité, en respectant toujours les recettes basiques, les saveurs authentiques. Et ensuite, voilà, on a commencé à faire des importés, des takeaways pour s'adapter à la situation actuelle, comme les restaurants sont fermés. Et depuis 2 mois, je suis ouvert comme un petit projet de street food, de sandwicherie, qui s'appelle Sage. C'est une histoire de galette, comme les crêpes libanais ou méditerranéens.
Ouais. Le Sage, c'est un four, pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas comprennent. Le Sage, c'est un four sur lequel on fait cuire des galettes, en fait.
C'est une galette. La pâte, elle est un peu plus travaillée qu'une appareil à crêpes. elle est plus consistante. Quand tu manges une galette, c'est vraiment c'est un repas complet. Et bah voilà, on s'amuse, on se fait plaisir, toujours dans l'identité libanaise, avec tous les savoir-faire à la française. Aussi, c'est une histoire de garder les liens toujours avec les gens. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas les accueillir au restaurant, mais on peut apporter cette cuisine chez eux. Ils peuvent manger dans la rue ou chez eux à la maison. Et voilà.
Mais c'est ça qui est intéressant dans vos restaurants, c'est que donc, le tout premier restaurant que vous aviez ouvert, l'auberge Nicolas Flamel, là, c'était la cuisine française traditionnelle. Puis ensuite, dans votre restaurant étoilé, restaurant Alain Jem, qui est rue Lauriston dans le 16e, là, vous avez fait de la cuisine gastronomique haut de gamme hein, puisqu'étoilé, mais avec des petits clins d'œil à vos origines libanaises et au terroir libanais, on peut dire hein, avec les épices, les saveurs. Et puis quand vous avez créé donc Casti, j'espère que ça, et je le vois sourire Casti, Alain, c'est que j'ai pas dû le prononcer très bien. Donc là, on était plutôt sur une cuisine libanaise traditionnelle, mais avec un savoir-faire gastronomique français au niveau de la réalisation. Et puis là, Sadj, alors là, on est vraiment dans la street food.
Exactement. Bah, en fait, c'est tout simplement, je suis très sincère avec la cuisine. C'est une histoire d'enfance, c'est une histoire de rêve d'enfance. Et c'est vrai que je suis arrivé en France pour un seul rêve, d'apprendre la cuisine française. Et j'ai appris la cuisine française pendant 17 ans, j'ai fait que la cuisine française. Et petit à petit, je commençais à avoir d'émotions au bout de 17 ans quand je retournais à mes racines. Je sentis une émotion très, très, très forte, ou l'étoile qui est venue directement derrière. Ouais, Et là, aujourd'hui, en fait, je suis un peu le...
Mais est-ce que de la même manière que vous avez mis du temps avant de mettre votre nom sur l'enseigne, est-ce que c'est pas le fait, après, d'avoir cette étoile qui vous a décomplexé et qui vous a dit, mais pourquoi? Mais j'ai le droit de faire de la cuisine libanaise. C'est mes racines.
Exactement. En fait, c'est une histoire de confiance aussi en soi-même. C'est vrai, la fête, je suis autodidacte, je n'étais pas formé par des grands chefs ou je n'ai pas fait d'école. On manque un peu de confiance. Et cette déclic, elle est venue 18 ans après. Mais j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours croyé en moi-même. J'ai toujours, les gens, ils m'ont encouragé beaucoup. Quels que soient des journalistes ou des blogueurs ou des clients, tout le monde m'a soutenu pour ça. Mais en fait, créer une identité culinaire, c'est la chose la plus compliquée pour un cuisinier. C'est vrai, une vraie identité culinaire, c'est pas faire de copier-coller ou voir de photos et commencer à le copier ou d'autres chefs, ils font ça. Moi,
faire une faire cuisine
ça.
D'auteur, comme on dit. Hein.
Cuisine d'auteur, ouais. Cuisine sincère, cuisine de cœur, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Et moi, chaque projet que j'ai fait, j'aime beaucoup raconter une histoire à mes clients. Pas une histoire faire des plats ou faire de business. Là, j'ai fait le métier depuis 22 ans. Je me réveille très tôt pour aller vraiment dans la cuisine. Maintenant, on est un peu perdu parce que, voilà, on a perdu un peu nos repères, nos habitudes, mais vite fait, on va retourner, j'espère, dans quelques mois. Mais j'ai toujours vraiment avoir une sincérité entre moi et la cuisine, entre moi et les clients. Et c'est ça, en fait. C'est ça ma passion, c'est ça ma vie, c'est pas de travail, c'est vraiment moi, en fait.
Mais de toute façon, quand vous dites, alors, les auditeurs qui ont déjà écouté les émissions avec vous, vont dire qu'on se répète, mais quand vous parlez de votre cuisine qui raconte une histoire, de toute façon, vous, votre histoire, elle est incroyable, parce que effectivement, quand je dis que vous arrivez en 99 en France sans parler le français, sans savoir faire la cuisine, avec 200 francs en poche, mais vous aviez même pas de logement, comme on dit, vous êtes arrivé une main devant, une main derrière, ce qui caractérise justement votre volonté, votre ténacité, votre envie de réussir, parce qu'au début personne vous a aidé, et puis en fait vous avez un peu forcé la chance, vous avez tapé aux bonnes portes, même si ça n'a pas été facile. Et alors il y a un parallèle que j'avais jamais fait, parce que effectivement, quand vous m'aviez dit dans une précédente émission, quand vous êtes arrivé, vous dormiez sur un banc dans le Champ de Mars, vous faisiez des petits boulots à droite à gauche, vous faisiez le peintre en bâtiment alors que vous aviez jamais fait ça. Et ce qui est amusant, c'est que votre première adresse, c'est l'auberge Nicolas Flamel, et c'était la maison de Flamel l'alchimiste. Oui. Et Flamel l'alchimiste accueillait des sans-abri.
Exactement.
Et leur donnait à manger. Et c'est vrai que quand je me suis rappelé de ça, sur l'histoire de Nicolas Flamel, je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard, comme on dit, c'est Mektoub. Hein.
Exactement, c'est le Mektoub. Voilà, après, voilà, je raconte mon histoire, et c'est vrai, l'histoire, on connaît pas la suite, je suis plein dedans. Tous les projets que j'ai faits, il y a un lien entre moi et la France, entre moi et mes racines libanaises. Aujourd'hui, certes, j'ai quitté mon pays depuis 22 ans, mais je parle du Liban tous les jours dans ma cuisine. Et aujourd'hui, c'est un très beau moyen à remercier aussi la France et Paris pour ramener ma culture dans la meilleure façon. C'est vraiment la façon culinaire dans la cuisine, et ramener toutes ces épices, tous ces savoir-faire toutes les recettes traditionnelles, le souvenir de mon enfance, je ramenais à Paris et le présentais comme il est aujourd'hui.
Et puis on vous a suivi sur les réseaux sociaux quand vous étiez à Tripoli pour tester la street food locale, j'imagine, pour prendre des petites idées pour vos restaurants et puis vous faire plaisir aussi. Vous avez bien raison. Alors le principe du tour du monde, hein, c'est d'avoir un petit peu. Alors on va parler d'iftar aujourd'hui,
oui,
hein, parce qu'au Liban on dit iftar.
Oui.
C'est d'avoir un petit peu de donner à nos auditeurs et à nos auditrices des idées pour changer un petit peu de la chorba et des briques.
Ouais.
on va voyager un petit peu au Liban avec vous. Alors c'est vrai que pendant le Ramadan, pour la rupture du jeûne, souvent on mange une soupe. Alors est-ce qu'on mange beaucoup de soupes au Liban? Est-ce qu'il y a des soupes caractéristiques?
Alors, le repas de Ramadan, c'est une affaire de siècle. C'est pas un simple plat. Il y a plusieurs plats, plusieurs choses en fait. C'est on peut dire, c'est le menu de dégustation de Ramadan qu'on vient dans mon restaurant étoilé.
C'est le grand mezé.
C'est les grands mezés. Et après, c'est tout. Il y a des choses vraiment authentiques, des choses traditionnelles. Par exemple, dans ma ville où je viens du cœur de Tripoli, et vraiment faire Ramadan là-bas, c'est une histoire, l'histoire de la rue, c'est l'histoire de voisins, c'est l'histoire
de ville très vivante, c'est,
Noël,
c'est une ville bouillonnante.
C'est comme pendant Noël ici, c'est la même chose qu'il là-bas. Ça veut dire, première chose, le matin, tu vas aller chercher, pas le matin, on peut dire, on va aller chercher, oui, le poulet, la viande, les légumes. Par contre, l'après-midi, on va aller chercher le jus de karoub.
D'accord.
Ça s'appelle Kharnoub.
Arouba
Kharnoub, c'est une fruit entre la date et la prune. Elle est un peu comme le haricot manchetou, mais en marron. Et celui-là, on fait un jus avec, ça rafraîchit le corps, parce que bien sûr, on boit pas d'eau toute la journée. Et là, on rafraîchit le corps. Et la deuxième jus aussi, c'est le jus de mûre. C'est des jus, je me souviens exactement.
D'accord.
Une bouteille par là, ça coûte que dalle, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment dans le marché, dans le souk, celui-là. Ensuite, ramener les pains, le bon pain qui est fait aussi dans l'après-midi. Et le matin, on ramenait la viande et les légumes. La maman en train de cuisiner. Après, c'est le travail des garçons et les papas aller chercher le pain, le jus et le pâtisserie. Le pâtisserie, je peux donner.
Alors, Alan, là, justement, on a fait les courses. Hein. On a fait les courses. On va faire une petite pause. On revient et on se met au fourneau.
Bon,
à tout de suite. On se retrouve avec Alan Jam pour le tour du monde.
Tour du monde revient dans un instant.
Vivez un Ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h. Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le tour du monde, aujourd'hui on vous emmène au Liban pour découvrir la tradition culinaire mais aussi culturelle du Ramadan au Liban. En première partie on a reparlé un petit peu de votre parcours Alan, mais bon, on va pas s'attendre dessus parce que vous avez plein d'autres choses à nous dire, hein, et puis les gens commencent à bien vous connaître et à bien connaître votre histoire. D'ailleurs, mon histoire, c'est le nom de votre restaurant libanais. Donc, en première partie, on a fait les courses, hein, pour préparer. Alors, bon, on est dans le tour du monde, mais là, on a fait les courses pour faire un l'iftar idéal d'Alan Jam. Donc là, vous nous avez parlé effectivement des jus de
karoub,
du jus de mûre. Et puis là, bon, on va se mettre un petit peu, c'est bien, un petit rafraîchissement, c'est sympa. Mais on va se mettre un petit peu au fourneau. Alors, j'imagine que un peu comme partout, hein, comme dans tout le monde musulman, j'imagine qu'on rompt le jeûne avec des dattes. Mais alors après, dites-nous comment ça se passe au Liban. Qu'est-ce qu'on mange? Et puis vous, quel iftar vous nous feriez si on venait?
Souvenir d'enfance de quand j'étais jeune, vraiment quelque chose très très, très important. Déjà le jus de karoub, c'était tous les jours, et ensuite on commence par une soupe. Une soupe aussi, mais moi en fait j'aimais pas beaucoup les soupes, je commençais toujours avec le faté. C'était mon plat vraiment idéal, que je réclamais ça tous les jours à ma mère. En plus c'est un plat qui est très consistant, si on va lâcher beaucoup dedans, après on a plus faim, mais tellement il y a des plats à déguster. Mais j'adorais toujours commencer avec ça, c'est des pains grillés, de la pois chiche, yaourt avec des crèmes de sésame tahiné avec un peu d'ail. Et ensuite, beurre clarifié avec des pignons de pain. Et ensuite, on vient les verser comme ça. Ça fait un peu de beurre huile.
Beurre clarifié, c'est comme le ghee, là, ou le smen, c'est ça?
Oui, samné, voilà, exactement. Et là, on prend la première cuillère. Ça s'appelle faté. Tous les jours, je réclamais ça. La soupe préférée, c'était vraiment la soupe de vermicelle, poulet vermicelle, magie. Oui, c'était cette marque-là. Vraiment, c'est mon enfance. Et ensuite, on va les plonger. Tous les jours, il y avait les taboulés aussi sur la table. Tous les jours. Et ensuite, il y a le kebbenaïe. Le kebbenaïe, ça a le tartare libanais. C'est viande d'agneau avec des blés concassés, bourgoul. Et on met dedans de la basilic, les noix et les échalotes, ils mixaient tout ça ensemble, ou on peut le vraiment...
Comment est-ce qu'on traduirait kebbe? Ça veut dire boulette, non? Ça veut dire
Non, on parle de kebbe naïe, c'est le tartare. Hein.
C'est c'est le tartare, c'est pas les kebbe, oui, avec le pois chiche.
C'est pas les kebbe frits et tout ça, voilà. Okay. Et ensuite, il y aura le plat, des fois il y a du poulet rôti avec des pommes de terre, des fois il y a de haricots avec des viandes d'agneau, ou le bémier, ou le kousamarchi, c'est les petites courgettes qui sont farcies. Il y a un plat toujours. Des fois, il y a des grillades aussi, les petites brochettes d'agneau ou le foie de d'agneau ou des trucs comme ça.
Oui, on mange beaucoup de grillades au Liban quand même.
Beaucoup des grillades, toujours le hummus, le taboulé, le kebbenaïe, ça c'est les plats, ils sont toujours. Les frites faites maison aussi, avec de l'huile d'olive aussi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, tu vas manger une bouchée de chat qui est vite fait, tu la ventre, il est plein. Et le truc, c'est, t'es un peu dégoûté parce que t'as faim, en fait. En plus, t'as regardé ta maman en train de faire à manger, mais t'arrives plus parce que l'estomac, elle tercie un peu.
On commence à manger avec les narines et avec les yeux.
Ouais, exactement. Surtout vers 17h, 18h avant le photo, là, tu commences à s'exciter, à gratter un peu. Voilà, tu vois ta maman, tout l'odeur en train de dégager dans la cuisine. Franchement, très, très, très bon souvenir. Et là, voilà, tu manges. Et à la fin, bien sûr, il y aura l'autre buffet, c'est les pâtisseries. Et moi, je me souviens bien, j'adorais une pâtisserie qui s'appelle Wardesham. Wardesham, c'est la fleur de Damas, mais c'est un sort de, comme le baklawa. Par contre, elle est farcie à l'intérieur avec l'ashta. Ashta, c'est la crème fraîche libanaise. Mais comment on le fait, l'ashta? C'est, on fait bouillir de lait. On récupère la première.
Oui, le petit lait, là,
le lait. On récupère et ensuite on prépare le miel avec les fleurs d'oranger, l'eau de rose et le pistache. Et on le farcit, le pâte à filo qui est cuit dans le four, on l'ouvre dans le milieu, on ajoute le hashta là-dedans, ensuite on verse la miel qui est parfumée de fleurs d'oranger et quelques pistaches truffées. Waouh, c'est une histoire de gourmandise. Et c'est vrai, la fête que tu manges pas toute la journée, et on maigrit pas parce que on récupère le soir, parce que là c'était le premier repas pendant le photo.
Vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de ça, hein. On sent la nostalgie. On sent la nostalgie qui vous envahit.
Et là on a mangé le premier repas, et ensuite on commence à descendre avec le copain, marcher un peu pour digérer.
Oui, alors au Liban la rupture du jeûne, c'est quelque chose qu'on fait en famille à la maison.
Ouais.
Mais surtout dans les grandes villes comme Tripoli ou Beyrouth, après on descend dans la rue, après on
part. Exactement, on est dans la rue.
Ça continue, hein, comme on dit. Il y a l'after.
Exactement, l'after. Bah, tout le magasin, ils sont ouverts, surtout les magasins des vêtements et tout ça. Et les cafés avec l'arguilé, le café, le thé, les soirs. Hein, on retrouve tout le monde. Comme le matin, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Le soir, bah, tout le copain, on se trouve à un jeu de cartes, discuter. On reste le maximum pour pas dormir tout de suite. Et après, il y a le suhoor. Suhoor, c'est un autre repas aussi.
Ouais, alors c'est le dernier repas avant la reprise du jeûne.
Ouais, mais c'est la continuité aussi de le futur. C'est suhoor, c'est le repas comme un petit déjeuner. Là, on est avec tous les sorts de fromages, entre le halloumi, le achawen, le labné, les olives, le thé, avec le bedelmel, et c'est les œufs plats ou des omelettes.
Alors, au Liban, on mange beaucoup de fromages frais, hein, principalement. Hein.
On n'a pas de fromage affiné, mais beaucoup de fromages frais. Après, avec le pain qui est spécial, s'appelle kake. C'est une galette avec du sésame. Et ensuite, on mange le soir. Et là, c'est l'heure de prière. On fait la prière de matin. Et ensuite, on va dormir pour se réveiller à 11h maximum, réveiller tard pour accourcir la journée.
Oui, c'est ça. C'est ça. Surtout qu'en plus, bon, au Liban, le jour dure un peu longtemps quand même. Hein. On est sous une latitude où les journées sont un peu longues.
Et surtout, il fait très, très chaud aussi.
En plus, oui. En plus. Donc c'est d'autant plus, ça paraît d'autant plus long, j'ai envie de dire.
Ouais. Vraiment, au niveau de plats, il y en a autant de plats comme autant de desserts. Il y a beaucoup de desserts. Vraiment, c'est une culture pâtisserie énorme. Là, on parlait de Wardesham aussi. Il y a le basma. Le basma, c'est le chevet d'ange qu'on le fait poêler dans un plaque. On le fait vraiment mettre un poids pour qu'il soit vraiment
une galette un peu. C'est
une galette croustillante. Et ensuite, on met cette fameuse hashta. Parce que la hashta, ça rafraîchit un peu le corps.
Ouais, il y a le mohalabiyeh aussi qui est très rafraîchissant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on consomme pendant le ramadan?
Non, pas trop le mohalabiyeh parce que c'est un dessert un peu populaire. Et ouais. C'est vrai, pour ramadan, on essaye la fête. Il y a un seul repas. Ouais. Voilà, on essaye à faire vraiment une repas de fête et tout ça.
Alors c'est la fête parce que c'est vrai que il y a beaucoup de religions qui cohabitent au Liban et c'est vrai que c'est la fête mais pas que pour les musulmans, c'est-à-dire qu'au Liban quand c'est le Ramadan même les Coptes, les chrétiens etc prennent part à la fête.
C'est ça qui est génial au Liban, c'est vrai, c'est un petit pays et c'est un mélange de plusieurs religions et pendant Noël tout le monde fait Noël, fête fin d'année. Ensuite, pendant Pâques, pareil, mais pendant Ramadan aussi, quel que soit, tu es chrétien ou musulman, tu vis cette ambiance ici et tout le monde respecte l'un l'autre avec ces fêtes-là.
Quand on fait la rupture du jeûne, la religion reste à la maison, mais après, quand on sort dans la rue, continuer un peu à célébrer le Ramadan, là, la religion passe peut-être un petit peu au deuxième plan, mais on est plus sur le partage.
Exactement.
Et sur le vivre ensemble. Parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que on a tellement, avec les guerres qu'il y a eu au Liban, etc., on a tellement l'image de guerres qui étaient liées à des religions qui s'opposaient, alors que quand on parle avec des Libanais, les Libanais comprennent pas cette image, parce que notamment pendant le Ramadan, ou à Noël, ou à Pâques, ou pendant des fêtes religieuses, quelle que soit la religion, les gens fêtent tout ensemble. Quoi.
Voilà, exactement. Par exemple, moi, je suis grandi dans un immeuble où il y avait 12 étages, et dans ces 12 étages, il y avait... J'avais 5 maisons musulmans, 5 maisons chrétiens, 2 maisons qui vivaient à l'étranger. On a mélangé avec le voisin, on a grandi avec 2 cultures chrétiennes et musulmans. C'est ça qui est génial. Chacun respecte l'un l'autre, chacun y partage avec lui. Pendant le fête de Noël, c'est nous qu'on venait chez eux. Pendant la fête de Eid, on les invite chez nous. Et moi, je grandis comme ça. C'est ça qui est génial. Et je pense que tous les Libans, c'est des peuples qui s'aiment beaucoup, qui se mélangent beaucoup, Et après, il y a un truc aussi, je me souviens, pendant le suhoor, on parle de ces fameux suhoor. Bon, nous, les jeunes, on restait un peu jusqu'à tard la nuit, parce qu'on traînait un peu, mais par exemple, pour les parents qui dormaient tôt, à 3h du matin, aux 4h, on l'appelle le tabal, qui passe dans la nuit, qui réveille les gens pour aller manger au suhoor.
Ah, d'accord. Bon, là, c'est pas le réveil matin, mais c'est pas le marchand de sable non plus.
Il passe à plusieurs jeunes. Il passe, il commence à frapper sur un grand tam-tam en disant c'est l'heure de suhoor, c'est l'heure de suhoor. Il réveille tout le monde et les gens ils se réveillent pour manger.
D'accord.
Et ces jeunes-là, en fait, qu'ils font ça dans les quartiers, avant la fin de Ramadan, ils passent te voir, ils frappent à la porte et toi tu donnes un peu quelques pièces comme des barchiches parce qu'ils sont. T'as réveillé tout pendant un mois dans la nuit. Pour aller manger suhoor. Vraiment, c'est une tradition extraordinaire. C'est pas l'histoire que c'est simple juste de ne pas manger ou manger une fois le soir. C'est un grand culture, un grand histoire. Après, il y a beaucoup de choses qui suivent derrière. Les gens, ils vont après la prière. La famille, ils se trouvent. C'est vraiment, il y a beaucoup de messages dans le Ramadan.
D'accord. Alors, le Liban, c'est un grand pays dans lequel il y a la montagne, la campagne, mais il y a aussi 200 kilomètres de littoral. Est-ce qu'il y a des cuisines régionales spécifiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une cuisine urbaine qu'on mange à Beyrouth, à Tripoli? Est-ce qu'il y a une cuisine de la campagne? Est-ce qu'il y a une cuisine des bords de mer avec, j'imagine, plus de poissons? Est-ce qu'il y a des cuisines régionales comme ça? Et est-ce que d'ailleurs, ça influe un petit peu sur ce qu'on consomme en période de Ramadan?
Bien sûr, en fait, au Liban, dans chaque village, on mange sa cuisine. Il y a des choses en commun. Dans chaque ville, et ils mangent aussi leur spécialité. Par exemple, la ville de Tripoli, elle est beaucoup proche de Syrie. Et Syrie, il y a une cuisine qui est très, très importante. C'est la cuisine de Damas, c'est la cuisine de Homs, pas très loin. Beyrouth aussi, ils sont leur spécialité à eux. Dans le nord, pareil, ils sont leur spécialité à eux. C'est une cuisine aussi beaucoup proche et beaucoup de choses en commun avec Palestine. Palestinien, c'est juste à côté, ou avec Jordanie. Aujourd'hui, la cuisine libanaise, c'est une cuisine levantine. C'est pas pour moi, en fait, ça n'existait pas, la cuisine libanaise.
Oui, c'est ça.
C'est une cuisine levantine, c'est une cuisine Proche-Orient. C'est beaucoup mélangé avec la cuisine syrienne, la cuisine jordanienne, la cuisine palestinienne, la cuisine tout cet côté-là. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi que la Turquie, ils sont restés 610 ans au Liban, dans cette terre-là. Ils ont laissé beaucoup de recettes. On a plein de choses en commun avec la Turquie.
Ouais, je voulais parler de ces influences extérieures, Alan, justement, parce que effectivement, on parle de cuisine levantine, hein, donc de tous les pays du Levant, Jordanie, Syrie, Liban, Palestine. Mais faut pas oublier que depuis les Phéniciens, hein, le Liban, ça a toujours été un carrefour commercial et culturel. Est-ce que le fait d'avoir des grands ports comme ça, il y avait des grands ports phéniciens au Liban à l'époque des Phéniciens, est-ce que ça a aussi permis de faire venir des influences culinaires d'ailleurs?
Bien sûr, une grande influence, ils ont laissé beaucoup de choses. En fait, les Libans, ils ont pris les recettes dans le pays à côté, mais ils ont modernisé un peu, ils l'ont rendu un peu cuisine libanaise. Aujourd'hui, le tomate, par exemple, c'est quelque chose de produit qui est très important dans la cuisine libanaise, mais la tomate, elle est arrivée dans le 19e siècle au Liban. Ça veut dire comment le Liban existe depuis longtemps. Et là, maintenant, on voit le tomate partout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais certes que cette côté mézé qui sont là, c'est vraiment typiquement libanais avec le kebab bennaïe, le tabou, le hummus, le baba ghanoush, l'abné, l'artichaut, toutes ces choses-là. Il y a au moins, je sais pas, centaines de plats, des petits plats qui viennent. Ça, c'est juste l'entrée, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on va les plonger dedans et vite fait, on n'a plus faim.
Pour le plat de résistance, on va faire juste une petite pause, le temps de digérer, et on revient tout de suite dans le Tour du Monde pour le plat de résistance avec Alan Djam qui nous emmène au Liban aujourd'hui.
Tour du Monde revient dans un instant.
Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h, Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le Tour du Monde qui vous emmène aujourd'hui au Liban, berceau de la cuisine levantine, avec un invité de marque, Alan Djam, chef étoilé, mais libanais aussi. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes là, Alan. Bon, allez, on a fait les courses, on s'est mis au fourneau. Là, vous nous avez fait un grand mezzé, là. Hein. Mais attention, le mezzé a picoré avec modération parce que le plat de résistance n'est pas encore arrivé. Alors, est-ce qu'il y a un plat emblématique de la cuisine libanaise pendant le ramadan? Je parle là de plat de résistance, de plat de partage. Est-ce qu'il y a un plat qu'on voit revenir au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine pendant le ramadan sur les tables?
C'est impossible, tellement il y a des choix en fait. Le ramadan, il passe et chaque plat principal, ça sera différent.
Un menu différent chaque
jour. Parce qu'entre le feuille de vigne farcie à l'agneau, entre le agneau pilaf, le riz et le poulet aux 7 épices riz pilaf, entre les mini courgettes farcies.
Alors ça ressemble à un plat, vous parliez justement de ressemblance avec les autres cuisines du Levant, ça ressemble à un plat palestinien qu'on fait dans une casserole et qu'on démoule directement
exactement,
dans le plat.
Exactement, exactement. Ça en revient sur la cuisine levantine qui est tout ça. Voilà, là. Ouais. Entre les friquets aussi, entre le kebbeh meshouillé, c'est les boulettes de bourgoule farcies, on le fait griller entre les grillades.
Alors à la viande, aux épinards, ça dépend.
Oui, chou farci, le chiche barak, c'est un sort de ravioli qui sont frits avec
le chou farci, c'est pas la version auvergnate là, hein.
Non, pas du tout. c'est du chou vert, pas chou vert, c'est plutôt chou blanc.
Chou
blanc qui a un peu moins de caractère que le chou vert. Il est moins dur au niveau des cuissons.
Ouais, il est moins.
La farce à l'intérieur, on fait hacher l'agneau avec du riz, des pignons de pain et des épices et on le fait rouler les choux. On le fait cuire avec la mélasse de grenade, coriandre et tomates.
Ça revient beaucoup dans votre cuisine d'ailleurs, la mélasse de grenade dans votre restaurant gastronomique étoilé rue Lauriston, hein, le restaurant Alan Djam. Et c'est vrai que la mélasse de grenade, franchement, on n'en voyait pas beaucoup à Paris. Et depuis que vous en mettez dans votre cuisine, depuis que vous en parlez, on commence à en voir sur les menus des restaurants. Et je me demande si vous n'avez pas lancé la mode en France. Hein.
Bah écoutez, j'ai commencé à travailler la mélasse de grenade, je pense en 2015. À la place d'utiliser vinaigre balsamique ou le citron yuzu, un truc comme ça, j'ai utilisé. C'est vraiment ça, c'est vraiment des textures entre le miel caramélisé, acidulé, qui se mélange bien avec l'huile d'olive.
C'est acidulé et confit à la fois. Je ne sais pas comment
exactement. Et ensuite, quand on ajoute quelques graines de grenade, ça rafraîchit un peu, ça fait de croquante et l'associer sur un carpaccio de Saint-Jacques ou carpaccio de bœuf ou faire dans un tartare ou dans un salade. Et nous, vraiment, on utilise beaucoup dans le fatouche. Le fatouche, on utilise partout, mais c'est vrai, la salade de fatouche, c'est les mâches, les roquettes, le pourpre, et avec de radis, des tomates cerises, des mini-concombres, de pain frit, et la graine de grenade et civette. Et ensuite, on mélange de mélasse de grenade avec les huiles d'olive et on va mélanger toute cette salade ensemble. Et là, ça s'appelle le fatouche. C'est les frères de taboulé. Mais elle est taboulée, elle a pris toute
version
la publicité.
Version printanière un peu,
exactement.
C'est ça, oui.
Et toujours, elle est, le Fatouche, il est écrasé avec le taboulée, parce que taboulée, sa réputation, elle a fait le tour du monde.
Ouais,
le Fatouche,
oui.
On connaît
oui,
un peu
sauf
moins.
Qu'en en France, souvent, le taboulée, on pense un petit peu au taboulée qu'on prépare souvent au Maghreb, qui est ouais. plus un couscous avec quelques herbes, alors que le taboulée, c'est plutôt
beaucoup,
une salade d'herbe, avec très peu de boulgour. Hein, c'est, mais c'est vraiment, on pourrait parler d'une salade d'herbe, ouais. D'ailleurs, taboulée que vous ne faites que pendant une courte période dans votre restaurant Xti, parce que vous ne faites que des produits de saison et la tomate, hein, on rappelle que il y en a pas toute l'année normalement, hein. C'est pas parce que chez Saveol ça pousse dans le coton là sous les serres qu'on devrait en manger toute l'année.
Ouais, exactement, ouais. C'est ça en fait dans la cuisine libanaise, que le tomate, le concombre, les herbes, c'est beaucoup présente. Et c'est vrai, la nature de Liban, ça a rien à voir avec ici. Et si on essaye vraiment à respecter, l'été on est gâté, là commence à faire beau, on est gâté avec le tomate, les basilic, le concombre, les persils. Mais l'hiver, on essaie à esquiver, mais on essaie dans le même temps utiliser le kiwi, les pomegranates Smith l'hiver, avec des lentilles, avec, on trouve toujours des idées de branches de céleri pour donner cet aspect taboulé revisité, ou une taboulé de produits de saison, ou taboulé de l'hiver, on l'appelle. Mmh. Mais l'été, vraiment, ça commence la saison à partir de mai-juin. On est gâté jusqu'à septembre.
Ouais. Alors, j'ai l'impression que dans la cuisine libanaise, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein. Mais la vision que j'en ai, c'est que c'est une cuisine où l'ingrédient est vraiment au centre du plat. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a quelques plats mijotés, il y a des sauces, des choses comme ça. Mais, si on doit globaliser un peu la cuisine libanaise, vraiment, on ne dénature pas les ingrédients. On assemble des ingrédients entre eux. Et du coup, pour faire une bonne cuisine libanaise, faut des très bons produits, des très bons ingrédients.
Après, exactement, il faut les bons produits. Mais là-bas, en sachant que il y a une terre vraiment, elle est très généreuse, elle est très riche au niveau des produits. C'est fait beau tout le temps, il est entre deux vallées, elle est protégée des vents et les catastrophes naturelles. Et c'est vrai, c'est une chance, mais aujourd'hui, la cuisine, elle est adaptée en France. Mais il y a un seul truc, beaucoup on a l'image dans la cuisine libanaise. En France, c'est vraiment une cuisine de mezzé ou une cuisine de grillade. C'est pas du tout ça. Il y a des centaines de plats mijotés, mais on le voit pas ici. Et ça, c'est vraiment un rêve de faire ces projets-là. Enfin, pour la suite, là, je annonce des choses comme
c'est
ça.
C'est ce que vous faites un peu chez Xti dans votre restaurant libanais.
En fait, j'ai envie de faire quelque chose vraiment que comme un cadeau. Enfin, remercier ma mère. C'est un projet autour de ma mère. Ça s'appelle Aimé. C'est ma mère en libanais. Que des plats traditionnels que ma mère qu'elle faisait. Tout il s'appelle.
C'est là que vous allez faire le fameux poulet, la fameuse recette de poulet.
Les choux, le poulet choux, tous ces plats là qui ça me rappelle un peu mon enfance.
Voilà le poulet choux, oui. Voilà le poulet choux que vous faisiez votre maman quand vous étiez jeune et dont vous parlez encore avec passion.
Voilà. J'espère que les choses ça va améliorer rapidement en France pour le Covid et pour vraiment lancer dans ces projets là qui est dédié à ma mère. C'est la cuisine de ma mère. Il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de dessert, il n'y aura que de plats traditionnels. On vient manger ça.
Ouais. Alors ça, on est impatient de découvrir ce futur projet avec la cuisine de maman. Alors justement, vous parlez de votre maman, et puis on parlait du Liban, qui est de la cuisine libanaise, qui est vraiment une cuisine basée sur l'ingrédient, etc. Si on ouvre le placard de votre maman ou de n'importe quelle maman libanaise, quel est l'ingrédient qu'on va retrouver partout? C'est-à-dire si je vous disais, oui. Résumez-moi la cuisine libanaise avec un ingrédient.
Si on ouvre les frigos, on ouvre les placards où il y a le monnaie, on ouvre la pharmacie, on trouve un seul produit en commun, c'est l'huile d'olive.
L'huile d'olive, d'accord.
Dans la pharmacie, huile d'olive, dans le frigo, huile d'olive, dans le placard de huile d'olive. Bien sûr, la mélasse de grenade aussi, qui le accompagne toujours. Et surtout aussi, il y a le zaatar. Le zaatar, c'est un produit qu'on le mange le matin et midi soir.
Alors, le zaatar qui n'est pas une herbe, mais qui est un mélange d'épices.
C'est un mélange d'herbes.
Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le zaatar?
Du thym? On l'appelle le thym libanais. Mais après, ici, quand on dit thym, ça veut dire une seule plante. Que c'est vrai, le thym libanais, c'est un mélange de dizaines de plantes. On a toujours le thym, le romarin, l'hyssop, l'orgon.
Il y a un peu de sésame aussi,
De sumac.
C'est très, voilà. Je me demandais justement ce qui donnait ce côté très citronné aux atars. Eh ben, c'est le sumac,
alors. Sumac, et de fois, on met aussi des fleurs, de pistaches. Ça dépend aussi. Il y a le zaatar libanais, comme les zaatars syriens, comme les zaatars jordaniens. On a beaucoup de choses en commun dans cette terre, comme aujourd'hui dans le sud de la France. on trouve beaucoup de produits en commun entre l'Espagne et l'Italie parce que c'est des pays voisins. C'est normal au Liban, comme tu as la frontière avec le Liban, la frontière avec le Jordanie, ben on trouve pas mal de choses en commun aussi avec.
Ben on pourrait, du coup, de ce que je comprends de ce que vous m'expliquez du Zaatar, on pourrait le comparer avec le Ras El Hanout au Maroc, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a autant de Ras El Hanout qu'il y a de boutiques d'épicerie. Et du coup, il y a autant de Zaatar qu'il y a de régions levantines.
Beaucoup, beaucoup, oui.
Voilà, c'est une appellation et des milliers de recettes.
Après, en fait, tout ça joue par rapport aux villages. Dans chaque village, dans la montagne, il y a des choses qui poussent. Il y a des montagnes qui poussent la sarriette, l'autre montagne, ça ne pousse pas. En tout cas, ils prennent toutes ces plantes-là, ils les font sécher, ils le font vraiment à la main, l'écraser à la main, et ensuite, ça fait le Zaatar.
Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu de l'ambiance un peu survoltée de Tripoli, surtout en période de Ramadan, j'imagine. Vous me dites que bon, après avoir commencé à rompre le jeûne en famille, après on sort dans la rue. Je crois qu'il y a une cuisine de rue très importante au Liban, et surtout dans les grandes villes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en street food dans les rues?
Après,
il y a plein de choses, j'imagine.
Le street food pendant Ramadan, c'est un peu compliqué parce que les gens, ils sont bien mangés chez eux. Et là, quand je dis, il y a le maman, tu peux donner à chaque maman 10 étoiles, pas une étoile, hein, tellement ils font bien la cuisine là-bas. C'est une cuisine des mamans.
Oui.
Vraiment, l'expérience, voilà.
C'est la meilleure.
Et derrière, les gens, quand ils sortent chez eux, on n'a pas faim maintenant. On commence à avoir faim vers 3h du matin. Et là, c'est un peu compliqué à avoir des restaurants qui soient ouverts aussi le matin. C'est vraiment, on mange le plus part à la maison. Par contre, qu'est-ce qu'on trouve à côté? C'est vraiment tout ça de côté gourmandise, c'est les pâtisseries. Voilà. Tous les pâtisseries, ils seront ouverts la nuit parce que les gens, ils vont sortir pour acheter la pâtisserie, pour manger. Et on trouve de tous les sorts de dattes, tout le marmoul. Le marmoul, on le prépare pour les fêtes. Pour le Eid al-Fitr. C'est une galette comme une coquille farcie avec des dattes. C'est une coquille de semoule, on peut le dire. Et aussi, il y a le baklawa, toutes ces pâtisseries aux pistaches, aux pignons de pain, il y a des centaines, les knefé, il y en a énormément de choses.
Alors, il y a une chose qu'on consomme beaucoup pendant le Ramadan aussi au Liban et que j'aime beaucoup, ça s'appelle le kelaj. Alors, qu'est-ce que c'est que le kelaj?
Oh là là, le kelaj.
Ah, on a travaillé l'émission un peu avant.
Ah oui, bravo. Le kelaj. Bah, tu sais quoi, le kelaj, ça dépend vraiment de la région. Là, ça, on part dans le Beyrouth, dans le hauteur de Beyrouth, dans le banlieue, c'est là-bas, c'est leur spécialité, c'est vers Zahle et tout ça. Le kelaj, c'est un sort de beignet au soumoul et il vient un crème, je vais pas dire crème fraîche ou crème chantilly libanaise,
ouais,
qui vient sur ces
kelages.
Bon, hein. Le kelage, bon. On peut l'avoir aux dattes, beaucoup aux pistaches. Le plus traditionnel, je pense, aux pistaches. Ensuite, ça vient cette chantilly là qui est très spéciale. Comment on le fait? Tu sais comment la plante, les racines qu'on fait les savons avec?
Ça je connais pas.
En fait, il y a une racine qu'on fait les savons avec.
D'accord.
Et celui-là, ça, on l'utilise là-bas pour faire vraiment la crème fraîche qui vient sur le chantilly, qui vient sur le
D'accord.
Kelaj. Mais j'ai pas les noms dans la tête, mais je pense qu'on va les garder sur Google, on va le trouver rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose.
On fera ça après l'émission, parce que malheureusement, on arrive près de la fin. Mais alors, une question quand même avant de rappeler un peu vos actualités, vos projets, tout ça, Alan. Il y a une question que je me pose, c'est que, comme vous le dites, la pâtisserie au Liban, c'est une institution. Hein, on parle généralement de pâtisserie orientale, mais c'est vrai que le Liban, il y a des centaines et des centaines de pâtisseries différentes qui sont généralement souvent assez sucrées, enfin mielées, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de miel dedans. D'où vient ce goût du sucre, hein, cet amour du sucre?
On ne parle pas de sucre, on parle de miel.
De miel, oui, bah oui.
On ne peut pas
dire
à un Libanais qu'on ne met pas de sucre, c'est que de miel.
Oui, que voilà, du miel, oui.
En fait, franchement, moi, j'ai beaucoup voyagé et c'est vrai que je trouve la pâtisserie libanaise une des meilleures pâtisseries dans tous les pays Proche-Orient. Je ne parle pas de pays de Maghreb, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je parle de pays Proche-Orient, vraiment spécialisé. Et surtout le baklawa, et ça, enfin, vraiment, c'est extraordinaire. C'est
un emblème,
posé, tout ça.
L'origine
de ça, ça revient à presque 1000 ans ou 1500 ans. Mm-hmm. Et ben, on n'oublie pas que la Turquie, elle a laissé beaucoup aussi de pâtisseries chez nous.
Oui, les Ottomans, les knefé, etc. Bon, on arrive malheureusement, c'est passé très vite, Alan. Hein.
Ouais.
Ça passe toujours très vite quand on est avec vous, parce qu'on voyage et puis on mange avec les oreilles, là, puisqu'on est à la radio. Alors, en deux mots, donc on rappelle... Sage, Donc,
ça, 51 rue de Montmorency, qu'on mange des galettes, qu'on peut commander en, avec Uber Eats ou en
Donc là, c'est
collègue.
La street food.
Et le bistrot Cassis, qu'on trouve une épicerie fine aussi libanaise, qu'on trouve la crème de sésame, la mélasse de grenade. Il y a beaucoup de pâtisseries, il y a des dattes, il y a des, tous les produits qu'on a besoin aussi pour Ramadan. Et aussi, on fait une cuisine à importer, tous les mezzés, qui est fait vraiment à la perfection et tout est fait maison.
Voilà. Et donc, Alan Jeham, vous faites aussi du takeaway. Si vous avez vous faire un plaisir pendant le Ramadan, restaurant étoilé, mais à la maison.
Exactement.
Ben, vous trouvez tout ça sur Internet. Puis, de toute façon, on vous remettra les liens vers les sites Internet des restaurants d'Alan Jeham, sur la page du podcast. Et puis, vous pourrez retrouver aussi cette émission en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Alan.
Avec
vous allez être obligé de revenir, hein, parce que on a encore plein de choses à se dire. Allez, on se retrouve, pour une prochaine émission du Tour du Monde. Et puis, d'ici là, ben, un très, très bon Ramadan à toutes et à tous.
Retrouvez Tour du Monde tous les week-ends de 18h à 19h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était Tour du Monde avec le renard. Semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.